Radio Okapi.
L'actualité de ce lundi reste encore dominée par la situation sécuritaire instable et confuse à Goma au Nord Kivu, due à la guerre du M23 soutenue par le Rwanda. Jusque cet après-midi, des détonations d'armes se font entendre partout à travers la ville. À suivre dans ce journal, des témoignages d'un habitant et d'un médecin d'un centre médical de Goma. Il sera aussi question des scènes de pillage enregistrées dans la ville, ainsi que de l'évasion de tous les détenus, près de 4400 personnes à la prison de Mounzenze, cet avant-midi. Lancement vendredi dernier par l'agence belge de développement Enabel d'un nouveau projet pour les provinces du Kasaï oriental et de l'Omami. Il s'agit du PIRED, programme intégré de réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des terres. Archimède Carrébois est l'invité de ce journal. L'administrateur du territoire de Calais en charge des questions politiques et administratives va parler de la situation dans ce territoire du Sud Kivu, dont une partie est sous l'emprise du M23 et ses alliés. Bonjour à tous, à la présentation de ce journal Noëlla Luzitu Kabambi. Guerre du M23 soutenue par le Rwanda, la situation continue de se dégrader dans la ville de Goma en Nord Kivu. Une situation sécuritaire encore extrêmement instable et confuse. Jusque cet après-midi, des détonations se font entendre partout à travers la ville où les habitants vivent de longues heures d'angoisse. Grâce à Mzati pour les détails.
Les armes continuent de parler. Des tirs nourris et des explosions n'ont pas cessé dans la ville. Des sources concordantes indiquent que les affrontements opposent les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda au Wazalendo. Les belligérants se disputent le contrôle total de la ville touristique, ce qui accentue la tension caractérisée par une psychose permanente au sein des habitants. Ces derniers restent cachés dans leurs maisons. D'après nos sources, outre les quartiers Majengo et Imbi, des éléments du M23 tentent de progresser dans d'autres quartiers, y compris au centre-ville, sous la résistance de quelques militaires effardessés et des Wazalendo. Les rebelles assiègent les installations de la chaîne nationale RTNC dans le quartier Le Volcan, nous confirme une source digne de foi. La tension est aussi perceptible à la frontière entre la RDC et le Rwanda, rythmée par des détonations d'armes lourdes et légères, affirment nos sources. À part le marché des Biréré et devant les bureaux de la DGDA à l'aéroport, des scènes de pillage sont signalées dans d'autres coins de la ville. Malgré cette situation tendue, l'aéroport international de Goma reste sous le contrôle des casques bleus de la MONUSCO et des forces de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC.
Et bien évidemment, comme nous l'avons dit, les habitants de Goma vivent des longues heures d'angoisse rythmées par des tirs nourris et des explosions dans plusieurs quartiers de la ville, y compris à proximité de l'aéroport de Goma. Suivez le témoignage poignant de cet habitant de Goma, joint il y a peu par Radio Okapi.
Pour l'instant, je te disais que la situation reste toujours tendue du côté de Majengo, du côté de Ngangi, du côté de toute la chefferie de Nyiragongo. Quelqu'un est enfermé dans sa maison. Il y a des détonations d'armes lourdes et légères qui se font entendre ça et là. En tout cas, il sera très très difficile de te préciser qu'est-ce qu'il y a au juste. Mais le seul élément qui nous a convaincu un peu, c'est que l'entrée de M23. Et maintenant, à l'instant où je vous parle, les détonations d'armes lourdes et légères se font entendre, voulais-je dire, du côté des Biréré, du côté de la ville. En tout cas, des bombes, des cartouches partout là. Même dans nos quartiers ici, des cartouches sont entendues ça et là.
Pendant ce temps, dans les structures sanitaires, on parle d'un afflux de civils blessés. Il s'agit pour la plupart des personnes atteintes par des balles perdues, selon plusieurs sources. Comme le dit un médecin de Goma, joint vers midi par Honeline Tibonera.
Il y a beaucoup de gens qui viennent à l'hôpital. Non seulement les blessés, il y a aussi des gens qui sont morts. L'hôpital est tellement submergé, on manque même là où mettre les malades. C'est que surprenant que, à l'heure où je vous parle, nous sommes tous dormis par terre, il y a les dames qui commencent à mettre au monde pendant que les conditions de vie ne sont pas quand même réunies. Nous sommes un peu à rupture avec certains intrants de l'hôpital. C'est quand même quelque chose qui nous met mal à l'aise. Ça fait au moins 3 jours que nous ne sortons pas de cet hôpital. On se nourrit difficilement.
Toujours à Goma, une évasion massive s'est produite ce lundi matin à la prison centrale de Munzenze. Selon une source pénitentiaire, la quasi-totalité des détenus, dont l'effectif est estimé à plus de 4000 personnes, a réussi à s'échapper. Une partie de la prison a été incendiée, causant la mort d'une dizaine de détenus, principalement des femmes, ainsi que d'un nourrisson qui était incarcéré avec sa mère. Au regard de la situation sécuritaire dans la ville de Goma, marquée par la présence de l'armée rwandaise, nous tenons à rassurer la population que dans la suite des instructions du président de la République, le gouvernement continue de travailler pour éviter le carnage et les pertes en vies humaines au regard des intentions manifestes du Rwanda. C'est le message du porte-parole du gouvernement congolais écrit sur son compte X ce lundi. Patrick Muyaya demande à la population de Goma de rester à l'abri, à la maison, de s'abstenir de commettre des actes de vandalisme et de pillage et de barrer la route à la propagande manipulatrice du Rwanda, écrit-il. Il appelle à la mobilisation de tous les Congolais derrière les FRDC. Nous sommes tous gardiens de notre territoire. Aucun centimètre ne sera cédé, conclut le porte-parole du gouvernement. Notez aussi que dans la province voisine, le Sud Kivu, des milliers d'habitants de la ville de Bukavu étaient dans les rues cet avant-midi pour soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo et aussi pour s'insurger contre la présence du M23 au Nord Kivu et au Sud Kivu. Ils ont répondu à l'appel de l'autorité provinciale du Sud Kivu, de la coordination de la société civile et d'autres groupes citoyens. La marche est partie de la place Munziirwa, dite Nyawera, jusqu'à la place de l'Indépendance pour se clôturé au gouvernorat de province à La Botte. Une déclaration a été lue par Néné Bintou, présidente de la société civile du Sud Kivu. Un extrait de son message nous est proposé ici par Rachel Kiesembango.
La société civile du Sud Kivu constate avec amertume la forte dégradation de la situation sécuritaire due à la guerre nous imposée par les Rwandais et ses alliés AFC M23 sur les sols congolais. Cette guerre a pris d'autres tournures au point qu'elle se déroule déjà dans la ville de Goma et la ville de Bukavu pour un grand danger si rien n'est fait. La société civile dénonce la complicité de la communauté internationale dans la guerre qui sévit dans notre pays. Au regard de ce qui précède, la société civile du Sud Kivu recommande 1. Au Conseil de sécurité des Nations Unies d'imposer la paix à travers une résolution contraignante sanctionnant les pays agresseurs, le Rwanda. Au président de la République et au gouvernement congolais de réévaluer rapidement les opérations militaires déjà amorcées et d'en prendre les résolutions pertinentes selon la gravité de la situation, car il leur revient avant tout de protéger les populations civiles. Aux belligérants, de cesser les faits immédiatement, de favoriser plutôt le retour à la paix.
S'agissant toujours de la tension entre la RDC et le Rwanda, le procès RDC-Rwanda devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, CADHP, devra s'ouvrir dans environ 2 semaines. Et le gouvernement congolais affûte ses armes à Kinshasa. C'est dans ce cadre qu'il a organisé ce lundi à Kinshasa un atelier qui a réuni plus de 300 acteurs étatiques, non étatiques, ainsi que des experts juristes pour préparer cette affaire qui devra débuter le 12 février prochain à Arusha, en Tanzanie. Explication avec vous, Blaise Ndongala Mayanda.
Les participants à cet atelier proviennent du gouvernement, de la société civile et des institutions d'appui à la démocratie. Au cours de ces forums, ils peaufinent des stratégies pour aider le gouvernement à collecter des preuves tangibles de l'agression rwandaise dans l'est du pays et de renforcer les plaidoyers de la RDC à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Pour le vice-ministre de la Justice et contentieux international, cet atelier offre également l'opportunité d'harmonisation de vues sur cette question entre le gouvernement et la société civile. Samuel Mbemba.
Nous avons pensé qu'il faut aussi déjà impliquer la société civile pour la collecte des preuves et la dimension des dénonciations dans l'ensemble. Donc actuellement, les avocats se préparent pour l'audience qui va s'ouvrir le 12 février 2025, la société civile aussi.
Il est persuadé que ce procès va se clôturer par la condamnation du régime de Kigali et de son président Paul Kagame. Pour rappel, ce procès initié en septembre 2023 devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples fait partie du front judiciaire à côté d'autres fronts que mène la RDC, à savoir militaire, diplomatique et médiatique, pour faire échec à l'agression rwandaise.
De son côté, le président du Kenya, William Ruto, appelle à la cessation des hostilités en RDC et annonce un sommet extraordinaire de l'EAC, Communauté d'Afrique de l'Est. L'appel est lancé au moment où des combats sont signalés entre le M23, appuyé par l'armée rwandaise, et les FARDC et leurs alliés autour et dans la ville de Goma. Le président du Kenya et président en exercice de l'EAC, William Ruto, a exprimé sa profonde préoccupation face à la détérioration de la situation sécuritaire et humanitaire dans la région. Babel Mpongo.
Dans une déclaration publiée sur son compte X le dimanche 26 janvier, William Ruto a dénoncé l'escalade des violences et ses conséquences sur les populations civiles. Il a notamment souligné l'impact humanitaire de la fermeture de l'espace aérien à Goma, qui complique davantage l'accès à l'aide humanitaire. Le président en exercice de l'EAC a appelé à une cessation immédiate et inconditionnelle des hostilités, tout en insistant sur l'obligation de toutes les parties de faciliter l'accès humanitaire aux populations touchées. Il a exhorté les parties en conflit à privilégier les moyens pacifiques pour résoudre ce conflit. William Ruto a également annoncé la tenue d'un sommet extraordinaire de l'EAC dans les 48 heures. Après avoir consulté les chefs d'État des États membres de l'EAC, nous convoquerons un sommet extraordinaire dans les prochaines 48 heures pour définir la voie à suivre, a-t-il affirmé. Il a par ailleurs réitéré l'engagement de l'EAC à collaborer avec d'autres organisations régionales et internationales, notamment l'Union africaine et la Communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, pour encourager les parties au conflit à privilégier le dialogue. William Ruto a également appelé les présidents Félix Tshisekedi et Paul Kagame, avec lesquels il s'est entretenu, à répondre à l'appel lancé par les populations de la région et la communauté internationale.
Venons-en à la situation humanitaire dans le Grand Nord du Nord Kivu. La nouvelle société civile congolaise du groupement de Basongora, territoire de Beni, exprime sa vive préoccupation face à la situation humanitaire au poste frontalier de Kassindi-Loubira. Dans cette cité située à 90 km de la ville de Beni, les personnes déplacées qui fuient le combat entre les FARDC et le 123 vivent sans assistance. Selon Denis Kalenga, président de la société civile du groupement de Basongora, la plupart des déplacés passent également la nuit à la Belle Étoile par manque d'abri. Ils plaident pour une assistance humanitaire d'urgence en faveur de ces vulnérables pour soulager leurs souffrances. Denis Kalenga est joint au téléphone par André Kitenge.
La situation humanitaire devient de plus en plus inquiétante au poste frontalier de Kassindi. Ça fait à peu près 23 jours que nous sommes en train d'enregistrer les déplacés de guerre qui nous viennent dans les coins et recoins de la province du Nord Kivu secouée par la rébellion du M23. Et ces déplacés de guerre chez nous au niveau du poste frontalier de Kassindi, nous n'avons pas vraiment où est-ce que nous allons le garder, et voilà ce qui nous inquiète davantage. Aujourd'hui même, nous avions enregistré à peu près plus de 17 personnes qui sont venues au niveau de Goma et qui ont prêté la voix de Kampala jusqu'ici au niveau de Kassindi. Et ce qui nous inquiète davantage, c'est le fait de voir que ces populations n'arrivent même pas à bénéficier l'appui du gouvernement central et même de nos autorités sur les plans provinciaux. Alors, notre demande, c'est que les organisations internationales, y compris le gouvernement central, arrivent à mettre une politique efficace en place afin de pouvoir résoudre et calmer tant soit fait la soif de cette population.
L'agence belge de développement Enabel a lancé vendredi dernier un nouveau projet pour les provinces du Kasaï oriental et de l'Omami. C'est le PIRED, Programme intégré de réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des terres. Ce projet prévoit d'introduire l'approche agroforestière et de travailler avec les organisations paysannes. Esther Ndalafina.
Ce projet, financé par l'Initiative pour la forêt de l'Afrique centrale, CAFI, à hauteur de 35 millions de dollars, a pour objectif de lutter contre la déforestation, réduire la dégradation des terres et améliorer les moyens de subsistance des communautés de façon durable. Le chef PIRED, Enabel, affirme que ce projet cible les services techniques déconcentrés, les producteurs, les communautés locales et le peuple autochtone. Enabel entend donc à travers ce projet de mener des actions pendant 52 mois pour permettre de limiter les dégâts de la déforestation dans ces deux provinces de la RDC. À cet effet, il envisage d'introduire l'approche agroforestière et de travailler avec les organisations paysannes dans le respect des lois nationales qui concernent le secteur agricole. Le gouverneur de province, Jean-Paul Mbwebwe Kapu, a salué la mise en œuvre de ce projet et a donné sa disponibilité invités pour la réunion du comité de pilotage des PRAID au mois de février prochain. L'équipe du gouvernement belge et de la représentation de Enabel RDC seront au Kasaï oriental pour visiter l'ensemble des activités. Esther Ndalafina Mbujimai, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Près de 200 Kenyans ont été tués dans des violences contre les femmes en 2024, presque le double de l'année précédente selon un rapport publié ce lundi. Selon le deuxième rapport du projet Faire taire les femmes de la société d'analyse de données Audipodev, 170 femmes ont été tuées au Kenya l'année dernière contre 95 en 2023. Près de 70% des meurtres ont été commis par des partenaires intimes des victimes et 61% ont eu lieu dans des espaces privés ou domestiques. Les violences conjugales sont en effet endémiques au Kenya. Le rapport intervient une semaine seulement après l'arrestation à Nairobi d'un homme qui transportait le corps mutilé d'une femme qu'il a affirmé être la sienne. Le fléau des violences conjugales au Kenya a éclaté au grand jour avec le décès en septembre 2024 de l'athlète Rebecca Chepdey, aspergée d'essence et immolée par le feu par son compagnon.
L'invité.
L'invité de ce journal s'appelle Archimède Carrébois, administrateur assistant du territoire de Calais en charge des questions politiques et administratives. Il revient sur la situation dans ce territoire du Sud Kivu, dont une partie est sous l'emprise du M23 et ses alliés depuis la chute de Minova et d'autres entités périphériques sur les littorales du lac Kivu. Archimède Carrébois s'entretient avec Jean Kassami.
Monsieur Archimède Carrébois, bonjour.
Oui, bonjour Radio Capine.
Quelle est la situation sécuritaire qui prévaut actuellement sur l'ensemble du territoire de Kalehe et plus particulièrement dans l'axe où le M23 est présent?
Par rapport à l'évolution de la situation sécuritaire, nous sommes en train d'observer l'agitation de l'ennemi, surtout du côté du lac, hein, au bord du lac, hein, parce que l'ennemi ne veut pas que la population vive de sa routine. Sa routine qui est les pêches, parce que la population riveraine du lac Kivu, du côté des Bouzi, même dans le Mbinga Nord, Nyamasasa, vit de la pêche artisanale. L'ennemi a refusé que dans la zone qu'il occupe, il n'autorise pas des mouvements sur le lac. Également, on peut dénoncer le comportement de l'ennemi qui tente à forcer les jeunes à rejoindre son mouvement. Pas plus tard que samedi le 25 janvier 2025, plusieurs jeunes ont été enlevés de force, soit pour transporter le matériel, la logistique de l'ennemi, soit pour rejoindre son cas. On doit signaler également le renforcement de la logistique de l'ennemi. La population locale dénonce l'entrée des véhicules à travers les ports de Kasunyu. Mais nous voyons aussi que l'ennemi est dans une sorte de panique parce qu'il craint, n'est-ce pas, le retour foudroyant de nos FRDC que nous soutenons de passage. On ne peut pas dire ici que ils sont loin parce que on peut pas donner les positions de nos forces armées, mais nous savons que dans un laps d'état, l'ennemi vivra le calvaire.
Les déplacés des moyens et au plateau de Kalehe qui s'étaient dirigés à Minova ont été contraints, encore une fois, à faire mouvement en direction des agglomérations vers le sud depuis que le M23 occupe Minova. Dans quelles conditions vivent ces déplacés-là?
On ne peut pas ne pas épingler un peu sur la situation humanitaire qui dégringole de jour au lendemain parce que c'est vrai, l'ennemi avec sa stratégie de vouloir, n'est-ce pas, cajoler la population a voulu montrer que il ne veut pas de camp de déplacer dans les Minova. Pourtant, c'est une violation grave des droits de l'homme. Cette population était venue fuir les combats et les combats qui sont encore dans leur zone. Mais l'ennemi a imposé aux gens de ne pas habiter dans les cas. C'est pourquoi nous avons vu plusieurs déplacés se réfugier dans des maisons d'accueil de la population. Donc à Minova, ils sont entrés dans des maisons parce qu'on les a chassés des forces dans les cas. Je peux vous signaler un mouvement, un vif mouvement de la population de Calais vers Idjoui. Un mouvement de la population de Calais, Binga Nord et Bouzi dans le Calais centre. Et ils sont nombreux, ils sont des milliers de gens qui fuient les combats dans le Numbi jusqu'à Calais centre.
Niabibwe est une entité qui se trouve à mi-chemin entre les villes de Bukavu et Goma, 50 km de part et d'autre. Comment les militaires de l'armée loyaliste qui sont massés là-bas à Niabibwe cohabitent-ils avec la population locale?
Niabibwe devient aujourd'hui invivable, c'est pas parce que l'ennemi a pris, c'est d'ailleurs une sorte de dénonciation. Nous sommes en train de dénoncer avec véhémence les comportements de certains éléments incontrôlés des FARDC. Parce que si la population de Niabibwe a fui, la population de Niabibwe n'a pas fui les combats de l'ennemi. La population de Niabibwe est en train de fuir, n'est-ce pas, les comportements de certaines unités de militaires qui se comportent très mal. Ils inquiètent la population en volant, pillant, n'usurpent pas les munitions parce que ils sont en train d'utiliser les munitions qui devraient normalement combattre l'ennemi. Je pense que les militaires doivent vite prendre, n'est-ce pas, ses responsabilités pour mettre la population hors d'état de nuire. On ne peut pas, n'est-ce pas, psychoser la population.
Merci beaucoup, monsieur l'administrateur.
Merci beaucoup.
C'est la fin de ce journal mis en onde des mains de maître par Pierre Diassinois, un journal présenté par Noëlla Luzitu-Kabambi sous la coordination et la supervision de Élisée Chikota-Chivueta. Notez qu'à 16h, heure de Kinshasa, vous aurez droit à un bulletin d'information sur Radio Okapi, plus que jamais le média de la paix.